Bon ben voilà, aujourd'hui, parole de Tux a l'immense privilège, la joie et le plaisir d'avoir un invité. Super invité qui est Arpinux, qui est le développeur de la distribution LiveArp. Arpinux, on t'appelle Arpinux ?
Oui, bonsoir. Bonsoir à toi. Tolrek, bonsoir Bubule et bonsoir Captain Fosix.
Salut.
Hello.
Alors aujourd'hui, infrastructure un peu spéciale, nous sommes un peu en... Donc je suis à côté de Bubule, mais Tolrek n'a pas pu nous rejoindre, donc il est...
Il est dans sa chambre.
Il est dans sa chambre, et alors il a un micro tout pourri, c'est pour ça que le son laisse un peu à désirer, mais on le pardonne. Arpinux, quant à lui, il est où ?
Dans sa chambre aussi, mais pas la même que Tolrek. Et je suis tranquillement dans l'Aude, en France, peinardement installé devant mon ordi, sans webcam, donc je vous vois, vous ne me voyez pas, c'est un bonheur.
Eh oui, tu as vu comme nous sommes tous beaux.
Vous êtes magnifique.
Non, merci.
Rien à dire, non, je tiens vraiment à le dire. C'est dommage que le podcast ne soit pas vidéo en permanence, parce que vraiment, autant la décoration de votre intérieur, de votre studio et vos tronches, c'est un régal.
Ouais, alors malheureusement, tu ne bénéficies pas de la pièce... dans laquelle on enregistre d'habitude, parce que j'avais besoin de tirer un câble, et d'habitude on enregistre dans la cuisine derrière, et là en fait on est plutôt dans ma salle à manger. C'est pour ça que tu vois les photos des gamins là derrière.
D'accord. Les toilettes sont plus ou moins proches ?
Les toilettes sont plus proches.
Ah d'accord, ça va arranger tout le monde ?
Ça va, c'est surtout Bubule.
Ça va surtout arranger Bubule.
Donc voilà, mais moi je suis extrêmement content de te recevoir dans cette émission. Ça fait
merci de ton invitation.
Ça fait très très longtemps que j'ai envie de recevoir un développeur d'une distribution, parce que finalement on parle de GNU Linux à toutes les émissions, à toutes les sauces, et c'est quelque chose que moi personnellement j'adore. J'ai déjà installé au moins une quinzaine de distributions sur mes ordinateurs. J'adore jouer avec ça, je trouve que c'est vraiment génial, et je suis vraiment très content d'avoir quelqu'un qui est à l'origine même de ces distros.
Et ce qui est fabuleux, c'est que je ne suis pas développeur.
Et alors, ça, c'est la particularité.
Qui plus est,
tu n'es pas développeur, et donc c'est bien la preuve que c'est finalement accessible même aux gens qui n'ont jamais codé en C, C++ ou autre assembleur, je vais dire. Donc, on va commencer par les questions d'ordre... classique et banal, introduction, pour apprendre un peu à te connaître. On va se la jouer IRC, années 80, ASV, autrement dit âge, sexe, ville.
Masculin, 39 ans. Ah oui, non, c'est dans le mauvais ordre, excusez-moi. Et donc, j'habite à Montréal, mais Montréal d'Aude, c'est un petit village planqué au sud-ouest de la France.
Alors, le sud-ouest. Et alors, quel temps fait-il aujourd'hui dans le sud-ouest ? Et nous enregistrons le 19 juin.
Alors, le 19 juin, c'est pourri. Voilà, il faut le dire. On sort d'une alerte inondation.
Oui, on a vu ça aux infos. C'est le gros bordel chez vous, non ?
Ouais, un petit peu. Mais ça va, moi, je suis en haut du village, on est peinard. On n'a pas d'eau.
Et alors, nous, assez paradoxalement, en Belgique, c'est...
Il fait 32 degrés.
Ouais. Voilà, exactement, c'est un peu canicule. Aujourd'hui,
ouais,
c'est un peu c'est un peu insupportable. D'ailleurs, même Tolrek a demandé l'autorisation pour laisser son ventilateur. Et on lui a dit non.
Que j'ai coupé quand même.
Parce que ça fait trop de bruit.
Ouais, il a coupé, du coup il est à poil, merci, super.
Donc voilà, alors Arpinux, de nouveau, origine, tes premiers boulots, tu commences, c'est quoi tes premiers contacts avec l'informatique ? Est-ce que c'est un rapport avec ce que tu voulais faire ou ce que tu as toujours
rien
rêvé d'être ?
Non, rien à voir, j'ai commencé l'info vraiment sur le tard, à 32 ans en fait. J'avais pas d'ordinateur, j'avais des copains avec des problèmes d'ordinateur. Voilà, c'est ça que j'avais autour de moi. Tous ceux qui étaient autour de moi avaient des problèmes avec les ordinateurs, donc je n'en ai jamais acheté parce que je ne voyais pas l'intérêt de m'acheter un truc qui allait m'apporter des problèmes. Et jusqu'au jour où, comme je faisais des dessins, j'ai dû faire une exposition. Ça, c'était en 2005. Et en 2005, il y a un mec qui m'a dit, mais pour tes flyers, pour ton affiche et tout, on va faire ça avec GIMP. Et GIMP, je ne savais pas ce que c'était, et il m'emmène, il me dit, tu vois, on va faire ça sur l'ordinateur, ça va être tranquille. Et moi, je me disais que ça allait durer des heures, que ça allait être infernal, que ça allait bugger comme d'habitude, comme ce que tout le monde me racontait. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps, on s'est bien marré, et ça a été ma découverte de Linux, en fait, par GIMP.
Ah oui, donc à travers GIMP, le premier...
Mais avant, j'avais aucune connaissance informatique, j'ai jamais touché à ça, parce que ça ne me passionnait vraiment pas, quoi.
Et donc, à ce moment-là, au moment où tu découvres l'informatique, tu fais quelque chose, tu travailles dans quel domaine ?
Ah, j'étais barman.
Barman.
Ouais, j'étais barman, ouais. Donc voilà, rien à voir. Mais en revanche, le seul intérêt, c'est que ça m'a habitué à travailler la nuit. Donc j'ai un côté geek par ça, quoi, si tu veux. La plupart des mecs à 12-14 ans ont commencé à être geek et ont vécu la nuit dans leur chambre, voilà. Et moi, pas du tout. J'étais derrière mon bar en train de boire comme un fou. Et c'est à 32 ans où normalement les mecs se calment. Arrête de jouer aux jeux vidéo, etc. Ben moi, j'ai arrêté de boire, mais j'ai commencé les jeux vidéo. Voilà.
Et ouais. Et nous, on en est où, les gars?
Ben vous faites les deux, vous, mais moi, vous, c'est pas pareil. Non, mais vous, c'est votre métier. Attends, quand tu fais un podcast, il faut s'impliquer. T'as raison, c'est important.
Ah oui, c'est tout à fait notre métier. On gagne, mais de l'or en barre. Hein.
Ben oui, bitcoins.
J'ai vu, t'as plein de bitcoins.
Ah ouais, j'ai reçu mon premier Satoshi, là j'étais tout content.
Satoshi, je te remercie, je cherchais le nom l'autre fois. J'ai sorti je sais pas combien de prises de Kung Fu sauf celle-là.
Tout à fait. C'est Doc Green qui nous a offert notre premier Satoshi. Donc, alors, tu dis, tu commences introduction via Gimp chez des copains, mais ça ne nous dit pas. La première distro que toi t'installes chez toi, c'est quoi?
Bah en fait, ce même copain, donc c'est DIP DYP, qui est un gros contributeur chez Ubuntu, enfin qui était gros contributeur chez Ubuntu à l'époque. Lui il m'a vendu un ordi que à l'époque j'ai payé 300€ en 6 mois, et il y avait Ubuntu dessus, la Dapper Drake, la 6.06, et donc j'ai commencé avec ça, je me suis éclaté. Et pendant que lui, il me montrait comment ça marchait, Gnome, etc. Moi, j'ai découvert CrunchBang, en fait, qui était la dérivée d'Ubuntu en 2007, mais avec OpenBox comme gestionnaire de fenêtres.
Oui.
Donc beaucoup plus léger, etc. Et donc, je suis tombé, en fait, dans OpenBox et de plus en plus dans le terminal, dans les fichiers de conf. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait vraiment pas besoin de grand-chose pour faire tourner une machine. On pouvait le faire avec de très simples scripts, de très petits outils. Et que du coup, mes machines me revenaient beaucoup moins cher. Je n'avais pas besoin d'acheter un ordinateur à 1000 euros. Ouais. Un ordinateur d'occasion à 200 euros suffit largement pour faire ce que je fais. Donc voilà. Et plus ça va, plus ça m'a intéressé. Plus ça va, moins j'ai eu de sous, puisque j'ai arrêté de bosser. Et donc du coup, vieil ordi, vieux matos, mais de très bons outils. À faire découvrir, à faire partager. C'est pour ça que j'ai fait live.
Et alors, au tout début, tu t'intéresses un petit peu à la distro, à Ubuntu, etc. On est plus dans des considérations un peu techniques, je vais dire. Est-ce que déjà, tu as l'attrait pour le libre ou est-ce que ça n'a rien à voir? C'est d'abord la technique qui t'intéresse et accessoirement, comme c'est gratuit, ben voilà, tu...
Ah non, c'était le libre qui m'intéressait. Moi, ce qui m'a intéressé au début, c'est comme me l'a présenté Dive, c'est effectivement une communauté où tout ce que tu reçois, tu peux le modifier, le redonner. Donc tout ce que j'ai reçu, dès que je l'ai modifié, je l'ai redonné. C'était automatique pour moi. Quand j'ai découvert Linux, quand je suis rentré dedans, c'était naturel. Je suis pas venu de Windows. J'avais pas d'ordinateur avant. Donc j'ai adopté la philosophie Linux en même temps que j'ai eu mon premier ordi. Quoi. C'était aussi naturel que ça. Ça me semble complètement normal d'utiliser un outil gratuit. Et dès que moi je peux développer quelque chose de sympa, de le filer aux autres.
En fait,
pour moi, c'est logique.
Le fait que tu n'aies jamais utilisé Windows fait de toi un être rare.
Généreux.
Pur.
Mais on peut vivre de ça.
En littérature, c'est l'enfant sauvage. Ouais.
Et le pire, c'est que comme on n'avait pas trop de solutions pour l'enregistrement entre nous, on t'a un peu perverti et ta pureté s'en est allée avec l'installation de ton Google Plus et de ton profil.
Ouais, je suis sur Google Plus et j'ai installé le machin vidéo pour en discuter. Non, mais c'est
mais après
aussi,
tu peux désinstaller hein, tout de suite après et puis tu vas prendre une douche. Hein. Tu te laves de tout ça. Hein. Alors maintenant on va parler évidemment un peu plus de la distro. Donc d'abord LiveArp. Pourquoi le nom?
Ah, le nom, non, très 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 con, le nom, c'est un live CD, donc LIV, live, on enlève le E, et puis Arpinux, on vire la fin, on garde ARP, voilà, live ARP, le nom, voilà. C'est rien de très original, j'avoue.
Mais alors, Arpinux, pourquoi Arpinux?
Parce que je m'appelle Arnaud Perret et que je suis sur Linux, on enlève les lettres, on en remet d'autres, voilà, ça fait Arpinux. rien de très original non plus, non, là-dessus, j'ai pas vraiment cherché, j'avoue.
Et... Est-ce que tu as une idée du nombre d'utilisateurs qui utilisent ta distro aujourd'hui?
Pas du tout. Enfin, il doit y en avoir une dizaine qui l'ont installé, ça c'est sûr, parce que je communique avec eux. Mais vraiment, j'en ai aucune idée, parce que j'ai pas de forum. Comme je suis tout seul, j'ai pas de forum. Donc, je sais pas. J'ai une cinquantaine de personnes qui sont inscrites à la newsletter.
Tu ne peux pas monitorer le download de la distribution.
C'est-à-dire que je sais que j'ai eu plus de 700 gigas de trafic sur mon site le mois dernier.
Il n'y a pas le détail.
Mais je sais pas exactement. Et puis j'avoue que c'est pas LiveArm, je l'ai pas fait pour qu'il soit téléchargé et installé. Je l'ai fait pour qu'il soit téléchargé et testé. C'est le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir redécouvrir des gestionnaires de fenêtres, de voir qu'on peut travailler différemment qu'avec les deux grands géants GNOME KDE. Que même avec des petites machines, on peut faire des trucs sympas. Et le but du jeu, c'est de tester LiveArm, de piquer des trucs dedans. C'est fait pour être pillé LiveArm, en fait. C'est voilà. Alors ceux qui l'installent, très bien, tant mieux. Ils ont une Debian et après ils peuvent s'amuser avec. Mais pour moi, c'est le but du jeu, c'est pas d'avoir de pouvoir afficher un nombre total de downloads sur DistroWatch. Je m'en fous, ça m'intéresse pas.
Et maintenant, sur la création de la distribution elle-même, tu as dit que tu n'étais pas développeur. Alors, tu fais comment? Comment ça se passe? Tu pars de quoi? Comment tu fais?
Le premier LiveArm, il a été créé suite à une discussion du chat parce que j'utilisais DWM comme gestionnaire de fenêtres, qui est un tiling. Et j'étais assez désolé qu'il n'y ait pas de distribution qui le proposait en VM par défaut. Et qu'on est obligé de l'installer, de le configurer soi-même, et que la documentation était assez difficile à comprendre. Donc, le premier outil que j'ai utilisé, c'est un outil qui s'appelle Remaster 6, et qui permet de créer un live CD avec le système qui est installé sur ta machine. Il y a pas mal de gens qui utilisent ça, c'est très très pratique, ça peut servir aussi de backup, et c'est comme ça que j'ai distribué la LiveArm 01. Et après, j'ai découvert un outil qui s'appelle LiveBuild, qui est distribué par Debian, et qui est l'outil officiel de construction du live Debian. Et eux, ils l'ont mis à la disposition des utilisateurs pour que nous, on puisse créer tous nos lives perso, faire ce qu'on veut avec, et redistribuer, créer des variantes, etc. Donc, je me sers de cet outil-là, tout simplement. C'est une suite de scripts. Il suffit de mettre les paramètres et voilà.
C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tu as une Debian sur ta machine, tu commences par désinstaller les bureaux que tu n'aimes pas, tu installes les nouveaux bureaux, à un moment donné, l'image te plaît, tu l'affiches, tu la transformes en ISO, et ça, c'est ta distro?
Alors ça, c'est le principe de Remaster 6, voilà. En revanche, le principe de LiveBuild, c'est pas du tout ça. Le principe de LiveBuild, il travaille avec Debootstrap, qui est un outil qui permet de créer une architecture Debian simple dans un dossier spécifique. C'est pour créer l'arborescence de base du système. Ensuite, tu vas rentrer dans cette architecture par la commande shroot, qui te permet de changer la racine système, chroot. Et une fois que tu es rentré dedans, tu travailles comme si tu étais dans un système normal, c'est-à-dire tu mets à jour ton système avec sudo apt-get update, tu peux modifier son source list, installer des paquets, etc. Une fois que tu as fait ça, normalement c'est LiveBuild qui le fait tout seul, hein, en gros, mais je t'explique le principe. Une fois que tu as fait ça, lui il sort du système racine. Il revient dans le système normal et il va créer une ISO, enfin il va plutôt créer un SquashFS avec ce système là. Ce SquashFS, il va l'associer à un installeur, en gros. Ces deux trucs là, il va le mettre dans un ISO et cette ISO là va être distribuée. Toi, quand tu vas télécharger ton ISO, elle va booter sur l'installeur qui lui va te dire il y a une session live, il y a une session install, voilà. Va décompresser le SquashFS et c'est le SquashFS qui va tourner en live CD. Okay. Voilà le principe de base du construction et utilisation du live CD chez Debian.
Et il faut des compétences pour, de bonnes compétences pour lancer le truc?
Non, vraiment, quand je dis qu'il n'y a aucune compétence nécessaire, c'est qu'il suffit juste de savoir lire. C'est vrai que le manuel est un petit peu long, mais moi j'ai appris par tâtonnement. J'ai une très vieille machine, je travaille sur un IBM X31, et donc je mets 3/4 d'heure pour construire un live sur ma machine. En partant d'un script, ça met 3/4 d'heure. Mais sur une machine récente, en 1/4 d'heure, tu peux construire un live. Donc, par tâtonnement, même si on n'a pas envie de lire, si on est un petit peu curieux, si on est un petit peu malin, vraiment, en 2-3 jours, sans mentir, On peut se construire son premier live, avoir ses premiers bureaux à soi, sa première config, et pouvoir le partager avec ses potes, pouvoir montrer ce qu'on sait faire, pouvoir montrer ce que Debian est capable de faire, voilà quoi. Et non, c'est très très bien foutu.
Tu t'insistes beaucoup sur la notion de live. Est-ce qu'il y a une différence entre la construction d'une distro live et d'une distro installable? Parce que la tienne, elle est installable quand même.
Alors, il n'y a pas de différence. Quand moi je la conçois, je ne fais pas de différence. Je veux que la distro soit live et installable. Il y a des distros qui sont uniquement live. Par exemple, LiveArp Rescue, c'est une variante du LiveArp qui est faite pour réparer ou pour restaurer un système. Celle-là ne fonctionne qu'en live parce qu'elle n'a aucun intérêt à être installée. C'est une distro de réparation. Donc voilà, ça dépend aussi de la destination de la distribution. T'as des distributions qui ne fonctionnent pas du tout en live parce qu'elles sont faites pour être installées. La Debian Netinstall, par exemple, c'est pas une live. C'est une ISO que tu télécharges, tu l'installes et point, tu peux rien faire d'autre avec. Et elle te donne un système minimal. C'est surtout une question de destination, d'utilisation. La plupart des distributions Ubuntu, etc., Fedora, sont live installables, comme LiveArp. Parce qu'effectivement, le mieux, c'est de pouvoir tester en live d'abord, voir si ça fonctionne bien sur ton matos, si le Wi-Fi est reconnu, si ton écran est reconnu, etc. Ouais. Et ensuite, tu l'installes. Donc, c'est vrai qu'il faut la plupart des temps les deux. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus avantageux pour l'utilisateur. Mais pour le développeur, ça ne fait aucune différence. Au niveau du script, il y a une ligne. Une ligne à changer pour savoir si ça s'installe ou pas.
Ouais, voilà. C'est un paramètre.
Voilà, donc, c'est juste un paramètre de script.
La finalité, toi, tu préfères qu'on l'utilise en tant que live, mais ce n'est pas la finalité de Rescue, puisque pour cette partie-là, tu as fait quelque chose de spécifique. Mais donc, je devance peut-être des questions du capitaine, mais comme ça, on est un peu interactif.
Non, mais tu peux y aller. Hein,
quelle est alors la finalité de cette distribution d'un point de vue applicatif?
Alors, d'un point de vue applicatif, je fais découvrir juste des petits outils qui ne sont pas utilisés la plupart du temps, qui sont recouverts généralement par de grosses surcouches. Par exemple, le GDM, qui est le gestionnaire de démarrage, le gestionnaire de choix de session classique chez GNOME, c'est une surcouche graphique. Moi, je le fais juste avec des menus, qui est un petit outil ultra léger, ultra simple, qui ne pèse rien, et qui permet exactement de la même façon de choisir sa session au démarrage. En fait, j'essaye de remplacer tous les gros outils qui sont lourds, difficiles à lancer dans la plupart des distributions par des petits outils qui existent déjà, qui existent depuis 5 ou 10 ans et dont personne ne se sert plus parce que c'est pas fun, parce qu'il n'y a pas des effets graphiques magnifiques, parce qu'il n'y a pas des effets de transparence fabuleuses. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous des ordi à 1000 euros, quoi. Et que quand tu mets 2 heures à démarrer ton ordi parce que tu as 300 milliards de fenêtres qui s'ouvrent en te disant « Tiens, regarde, c'est joli, tu peux choisir tel truc », c'est chiant. Moi, quand j'allume mon ordi, je veux que ça s'allume et que ça marche, quoi. Et même s'il a 10 ans.
Est-ce qu'elle serait alors plus utilisée pour comme un outil d'aide aux développeurs ou bien vraiment pour être minimaliste pour du hardware
C'est pour l'utilisateur, hein, c'est pas pour le développeur.
Ok, mais donc l'utilisateur qui a une machine un peu plus ancienne, il trouvera son compte, mais par contre, il y a quand même des outils intéressants là-dedans. Et si on s'y habitue et que les outils sont vraiment bien, ça reste une distribution live, à ce moment-là, donc tu as quand même la possibilité, comme tu as dit, de l'installer définitivement pour pouvoir accéder à des espaces de stockage et traiter des fichiers, etc.
Ah ben non, mais ça, comme je dis, ça fonctionne sur du très petit matos. Le reste, c'est du bonus. C'est sûr que moi, je suis très content de ma distribution sur du vieux matos, mais sur du matos moderne, c'est de la bombe, quoi. Forcément, ça va beaucoup plus vite. Donc... Mais ça, c'est comme toutes les petites distributions minimalistes. Crunchbang est un bon exemple, quoi. Si on installe une Crunchbang sur un i5, c'est juste monstrueux à quel point ça va vite. Parce qu'on a enlevé toutes les surcouches graphiques, quoi.
L'idée, la philosophie qui est derrière ta distro, c'est pas la légèreté pour la légèreté, c'est plutôt la légèreté parce qu'il y a des vieilles machines qui sont encore dans le circuit
Il y a surtout des vieilles machines. Le problème, c'est que 80% du parc informatique, c'est des machines qui ont plus de 5 ans. Alors moi, j'ai une machine qui a plus de 5 ans, je lance Ubuntu dessus, elle ne veut pas se lancer. Parce que j'ai un vieux noyau qui supporte pas le nouveau noyau avec les options bidule machin, les options 4 Go de RAM, sauf que moi mon ordi il accepte même pas 4 Go de RAM, donc je m'en fous. Et je suis comme 80% des gens sur la planète. Donc, quand le mec, il habite en Hongrie, il n'a pas de quoi s'offrir le dernier Sony VAIO, le dernier machin. Donc, quand il a un vieil ordi, bah, il n'a pas le choix. Soit il utilise Windows 98 ou Windows XP, soit il utilise une distribution Linux vraiment minimaliste du style Damsmall Linux ou Puppy Linux, qui sont de bonnes distributions, mais qui sont vraiment, vraiment spartiates, quoi. Mais sinon, il n'y a pas entre les deux.
Oui, mais c'est surtout que les distributions dont tu parles, j'ai l'impression, maintenant peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elles visent la légèreté. Et la légèreté, ça ne veut pas nécessairement dire compatibilité avec matériel peut-être plus ancien, je ne vais pas dire obsolète, mais plus vieux, quoi. Alors que toi, tu vises vraiment ton public, c'est voilà, ne jetez pas vos ordinateurs, il y a encore des choses à faire avec, quoi.
Bah, d'office sur le LiveArp, le noyau 486 de Linux est installé. C'est-à-dire que c'est le noyau qui permet de faire tourner les P2 ou les P3, quoi. Voilà, les Pentium 2, les Pentium 3.
Est-ce que le fait que ta distribution soit basée sur Debian, c'était Debian qu'il te fallait parce que c'est Debian qui a une philosophie de rétrocompatibilité la plus évoluée?
Alors, franchement, au niveau technique, j'ai aucune connaissance nécessaire pour comparer les distributions Debian, Arch Linux, Fedora, Ubuntu, etc. En revanche, au niveau éthique, Debian, ce qui me plaît, c'est que ça sort quand c'est prêt. Il n'y a pas de pression marketing, il n'y a pas d'entreprise derrière qui exige que ça sorte à telle date. Il n'y a pas un grand gourou au-dessus, quoi qu'on en dise, même si on dit que Stallman, c'est le gourou du libre. Il ne dirige pas Debian, personne ne dirige Debian. C'est la communauté qui dirige Debian. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est que la communauté, c'est les utilisateurs. Et tant que c'est les utilisateurs qui dirigent la communauté, là, ça va. Alors, c'est peut-être un peu plus lent. C'est vrai que c'est pas toujours à jour. Quand on a un ordinateur super moderne, bah, les drivers Debian sont pas toujours à jour. C'est vrai. Mais philosophiquement, je trouve que l'informatique, c'est un outil de l'humain. Si on oublie que c'est l'humain qui l'utilise, c'est pas bon, quoi.
Ouais.
Techniquement, moi je me posais une question par rapport à la distribution. C'est puisque c'est basé sur Debian, on installe Arp Linux sur la machine, les mises à jour sont liées au dépôt Debian ou est-ce qu'il y a des dépôts propres à Arp Linux
Non, il n'y a pas de dépôt LiveArp. Je suis intégralement inclus dans les dépôts Debian. Déjà parce que je ne sais pas développer les paquets, je ne suis pas codeur. Y a des paquets que j'inclus qui ne sont pas dans les dépôts Debian, mais parce qu'ils sont dans les dépôts JIT, ce sont des paquets sources. Par exemple, ouais. Le gestionnaire de fenêtres WMFS, il n'y a pas de paquet Debian parce que bah, il n'est pas assez stable. Donc celui-là, je l'inclus. J'inclus aussi une version DWM patchée. Mais ça, je les maintiens, moi, à jour. Et sur mes dépôts JIT. Donc les gens peuvent le mettre à jour depuis les dépôts JIT. C'est expliqué dans la doc, que j'inclus dans la distribution aussi. Ça aussi, c'est un gros point de la distro, la documentation. Je trouve que c'est très, très, très important, quoi, de fournir une documentation propre et complète.
Et donc tu mets à disposition les packages.
Mais et... donc juste pour finir, excusez-moi, pour finir sur la mise à jour. Les mises à jour se font exactement comme sur n'importe quel Debian, avec sudo apt-get update upgrade et hop là. Donc ça suit le cycle de Debian.
Avec quelques packages en plus que toi tu maintiens.
Voilà. Mais les paquets que je maintiens sont toujours des paquets dont les sources sont disponibles sur JIT. Donc les gens peuvent mettre à jour directement sur JIT sans problème. Tout est disponible, libre, ouvert. Voilà. Il n'y a rien de planqué. Il n'y a pas de paquets dans les coins. Voilà. Tout est disponible.
Moi, il y a un truc qui m'a vraiment énormément plu dans ta distro, c'est les bureaux que tu as sélectionnés. Est-ce que les bureaux que tu as sélectionnés, c'est plus ou moins une liste exhaustive des bureaux qui existent et qui sont légers? Ou est-ce que il y en a encore beaucoup plus, mais t'as vraiment...
Il y en a encore plein. Je vais pouvoir m'amuser encore plein de fois avec, faire plein de versions différentes. Non, en fait, ceux-là, je les ai pris parce qu'ils... Je trouve qu'ils représentent vraiment les différentes façons de travailler sur Linux. Je trouve que on a différentes façons de bosser chacun dans nos têtes. On a différents schémas. Chacun a sa façon de réfléchir, quoi. Et Je pense que travailler avec un outil qui s'adapte vraiment à notre façon de réfléchir, ça accélère le travail, ça accélère tout ce qu'on fait.
Ouais.
Donc de proposer des bureaux qui ont des organisations différentes, des façons de gérer les fenêtres, des façons d'ouvrir les fenêtres, des façons de lancer les applications, de les planquer, de les organiser, etc. Tout ça, ça correspond pour moi à une façon de réfléchir. Donc le but de LiveArp, c'est que tu testes les 12 sessions, parce qu'il y en a 12. Donc tu testes les 12 sessions et obligatoirement, il y en a une qui va te sembler complètement naturelle. Qui va correspondre vraiment à ton schéma mental à toi. Alors après, bien sûr, il y a des petites variantes, tu vas pouvoir moduler, faire ce que tu veux. Mais pour moi, c'est ça le Linux. Ce qui se passe avec les autres distributions, désolé de cracher un peu chez mes copains, mais chez Ubuntu, chez Fedora, toutes les grandes distributions qui doivent normalement représenter le libre, elles vont toutes dans le même sens. Elles ressemblent de plus en plus, que ce soit à Mac ou à Microsoft. Elle propose plus rien de différent. C'est tout au tactile ou tout à la souris. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y a des dizaines, des centaines de développeurs qui font un travail fabuleux, qui offrent des outils qui tournent sur de vieilles machines, qui peuvent permettre à des gens de travailler beaucoup mieux. Là, pour l'instant, ce qu'on voit chez Linux, c'est une uniformisation qui ne me plaît pas beaucoup. Moi, ce que j'ai voulu montrer justement, c'est que Linux, c'est pas l'uniformisation, c'est pas un seul bureau. C'est pas une seule façon de faire, c'est une communauté. Et une communauté, c'est plein de gens et plein de façons de faire. Voilà.
Ouais. Oui, tout à fait. En tout cas,
excusez-moi si je suis un peu bavard, hein, ça va être dur à couper.
Ah non, il y a pas de problème.
Non, c'est intéressant. C'est intéressant tout ce que tu racontes. En tout cas, j'étais vraiment séduit. Et c'est vrai que c'est ça le petit vent de fraîcheur quand on installe ta distro, c'est que finalement, on se rend compte que bon, il n'y a pas que KDE et Gnome. Il y en a encore des tas qui sont oubliés, probablement pour des mauvaises raisons, parce qu'en fait, on est probablement dans une ère où on s'intéresse beaucoup à l'esthétique, tout ce qui est fort.
Alors, j'ai essayé de faire jolie quand même. Hein. Essayé de faire pas trop moche. Hein.
Elle est
surpris de voir. Il y a Fusion qui est proposé, qui était le truc sous Gnome qu'on couplait à la place de Metacity, si je me trompe pas.
Alors en fait, Compiz Fusion, c'était quand ils avaient sorti ça, c'était Beryl, le projet Beryl à l'époque. Ouais. Et tout. Ouais, alors en fait, ça c'est dans l'ancienne version, dans la LiveArp 3.9, qui est basée sur Debian Squeeze. Les paquets Compiz étaient présents dans le dépôt, donc là je l'ai inclus. Et si la carte graphique est reconnu, bah, tu peux t'amuser avec Compiz Fusion sans problème sur le LiveArp 3.9, qui est toujours disponible sur mon site d'ailleurs. Et il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut.
Captain Posix confirmera si c'est celui que j'ai testé, puisqu'il m'a filé une live USB.
Oui, donc j'ai filé à Tolrec la 3.9, la 4.0 n'était pas sortie à ce moment-là.
D'accord, et là j'en suis à la 4.1, là, mais forcément, ça avance.
Oui. Et donc justement, ça c'est intéressant aussi, cette notion de numérotation. Tu viens de sortir la 4.1, maintenant la prochaine.
Oui, non, c'est le bordel les numéros, je sais, c'est le bordel.
Ah mais non, je dis pas du tout que c'est le bordel.
Très très vite, la LiveArp 0.1 elle est sortie parce que c'était la première. Ensuite 0.2, 0.3, etc. Tu vois, très très con. Jusqu'à la 0.3, 1, 2, 3, etc. Et ensuite Debian est passé de la Debian 6 à la Debian 7. Et là je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose et de se calquer sur le truc. Donc je suis passé à la LiveArp 4. Et quand Debian a sorti la 7.1, il y a 3 jours, j'ai sorti la LiveArp 4.1. Donc maintenant, je me calque sur le rythme de Debian au niveau des numéros. Voilà, ça va être plus facile, même pour moi.
D'accord, donc la version 8 de Debian va donner la 0.5 chez toi.
Etc. Okay. Donc je suis peinard, je ne sortirai jamais la 1.0. Voilà, je suis tranquille.
Ah ouais, faut pas dire ça, mais...
Si, ou alors c'est mes enfants peut-être, mais au rythme de Debian, je ne sortirai jamais la 1.0.
C'est parce qu'en fait, je me demandais, est-ce que le 0.1 veut dire que tu considères toujours ta distro dans une version bêta ou...
Oui.
Ah, de toute façon. Oui. Mais enfin, ceci dit, maintenant...
Elle fonctionne, elle tourne, elle est stable, moi je m'en sers tous les jours, et à la maison, les 3 ordi tournent dessus, voilà, ça fonctionne très bien. Donc, je peux la conseiller sans souci, sans scrupule. En revanche, je suis pas développeur, donc s'il y a un bug, je suis obligé de me référer au développeur Debian. Et dans ce cadre-là, en tant que proprio, entre guillemets, d'une distribution, je ne peux pas la passer en 1.0 si je ne suis pas moi capable de m'en occuper.
Oui, oui, d'accord. Mais
c'est uniquement un truc de principe, quoi, en fait. Moi, je m'estime pas prêt à passer ma distro à 1.0. Je ne suis pas capable de la faire de A à Z, en fait. Je ne la fais pas de A à Z. Je rajoute des trucs que je connais, mais je ne fais pas de A à Z. Donc, je ne l'appelle pas 1.0.
Mais en réalité, tu fais passer ça pour un défaut, le fait que tu ne sois pas développeur, mais en réalité, c'est quand même super intéressant de voir que tu peux développer ta distro et qu'à un moment donné... À un moment donné, si jamais il y a des bugs, finalement, tu peux aussi te retourner vers les développeurs Debian, demander un coup de main. Eux, ils fixent dans leur distro et c'est fixé automatiquement dans la tienne. C'est un peu magique, quoi. C'est génial.
C'est ce qui me plaît dans la communauté Linux. C'est arrivé, tu dis bonjour, j'ai une idée. Le mec, il fait « Ah, tiens, c'est sympa, ouais, je arrive, moi aussi. » Et voilà, tu te retrouves à 10 à faire un truc. Et dans ce... ben voilà, et 10 cerveaux et 10 perdus, ça vaut mieux, quoi. C'est toujours pareil. Donc, moi, j'aime bien faire ma distro tout seul dans mon coin. Mais dès que je peux l'ouvrir et demander à tester, etc., ça me plaît, quoi. C'est ça qui me plaît dans la communauté. Sinon, je serais sous Mac.
Oui, mais si tu étais sous Mac, on t'aurait pas demandé de participer à l'émission.
On a bien demandé à quelqu'un sous Windows de venir nous parler du cryptage.
C'est vrai qu'on a bien invité l'imposteur qui...
Oui, qui... mais c'était approprié hein, sur le cryptage. Là, il n'y a rien à dire.
Pour ce qui est de la stabilisation de la distro, comment est-ce que tu t'organises avec les testeurs et puis quand ils te rapportent un bug, quel est ton champ d'action? Qu'est-ce que tu peux fixer? Qu'est-ce que tu ne peux pas fixer?
Alors, je peux fixer généralement tout ce qui est script, thème, les applications, les lanceurs, tout ce que je fais moi. Et dans les paquets eux-mêmes, je peux rien faire.
Et est-ce que c'est déjà arrivé que dans ta distribution, un paquet qui a été compilé pour Debian fonctionne sous Debian, mais pas sur LiveArp?
Non.
Non.
Non, mais j'ai les mêmes bugs que, par exemple, en ce moment, on a un bug sur Catfish, sur les lives Debian. Catfish, qui est un outil de recherche, il y a un des fichiers qui ne veut pas se créer à l'installation. Très, très con. Si on le réinstalle, ça fonctionne très bien. Mais à l'installation du live, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai le même bug que Debian. Voilà. Tant pis pour moi.
Je suppose que ce sera pris en charge. Hein.
Oui, non, mais c'est pas dramatique non plus. Et étant donné que c'est basé sur Debian, quelqu'un qui va installer une Debian aura de toute façon le même bug que moi, donc ça me gêne pas plus que ça. Et puis, Catfish, encore une fois, une interface graphique à la commande find ou locate. Et quelqu'un qui va être un peu curieux va se demander comment ça fonctionne, va ouvrir son terminal, va taper find n'importe quoi et va voir des résultats qui s'affichent. Et puis, il va trouver le bon.
C'est comme ça qu'on
apprend aussi. Hein.
Voilà. Au niveau du temps que tu passes sur ta distribution, on est à l'heure, aux 2 heures, aux 3 heures, aux 4 heures par jour.
Ça dépend du temps. Enfin, si je suis en développement ou pas. En temps de développement, c'est entre 3 et 4 heures par jour quand je suis en train de la construire, parce que j'arrête pas de tester et de construire. Voilà. En permanence, je fais que ça.
Et si
ça m'amuse ou ça m'amuse.
Si tu devais répartir un petit peu des pourcentages dans les tâches que tu as à faire, c'est quoi la plus grosse partie? C'est le thème? C'est les scripts?
Alors, pour la dernière version, la plus grosse partie, ça a été le thème, parce que passer de GTK2 à GTK3, ça a été l'enfer. Tous ceux qui développent en graphique me comprendront. Franchement, ça a été l'horreur. Je comprends les développeurs, hein, je comprends leur truc, pourquoi est-ce qu'ils sont passés de GTK2 à GTK3, c'est très bien. Mais pour ceux qui font des thèmes, comme moi en amateur, ça a été très chaud. Le reste, c'est l'édition en fait des deux versions, parce que je fais une version française et une version anglaise, parce que je veux absolument maintenir une version francophone à jour, et l'aide. Et comme je construis un wiki complet à chaque fois et une doc complète intégrée en dur dans la distro, pour qu'elle soit disponible hors ligne. Ça me prend beaucoup de temps d'édition. Donc c'est 80% du temps, c'est de l'édition. Et 20% du temps, c'est de la bidouille et des tests.
Ça, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier dans ta distribution. Il y a un wiki qui est intégré avec l'ISO. Mmh. Et finalement, pourquoi faire ça plutôt qu'un lien Internet? Et il suffirait de maintenir le wiki.
Mais parce qu'on n'a pas tous Internet en haut débit, tout simplement.
Ah oui, donc toujours.
C'est, voilà quoi.
Oui.
Ouais, mais pour des pages wiki de doc qui sont du texte.
C'est du HTML, ça pèse rien dans la distro. Ah,
mais justement, donc ça ne pèse rien non plus sur Internet.
Alors le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui pèse lourd sur Internet, c'est les images. Et quand tu es dans un pays un peu paumé ou dans une région un peu paumée en France avec une vieille connexion à 56K, quand tu as un wiki qui s'affiche pas parce que tu as deux grosses images dedans, franchement, tu as les boules.
D'accord, donc il y a quand même, c'est assez riche, quoi. C'est pas juste comme un man page en format HTML, c'est un wiki complet avec des exemples.
Non, c'est graphique.
D'accord.
Non, c'est graphique. En fait, j'ai construit ça. C'est pas un wiki, comment dire. Comme je voulais pas intégrer de serveur non plus, je voulais pas intégrer un vrai wiki officiel, donc j'ai édité toutes les pages en dur, en HTML, et j'ai construit un mini-site. Et ce mini-site internet, tu y accèdes depuis Firefox ou LuaKit, selon le navigateur que tu utilises, directement depuis la distribution. Donc c'est pas perturbant pour l'utilisateur, parce que c'est exactement comme s'il se baladait sur une page internet. Ça a le même format, ça a les mêmes caractéristiques, tu peux revenir en arrière, etc. Donc c'est, voilà, je trouve que c'est la façon la plus simple de présenter une aide. Alors ça me demande juste un peu de boulot d'édition pour moi, mais sinon, voilà, c'est comme ça que je pratique, parce qu'on n'a pas tous le net, quoi. Il y en a même qui ont, enfin, je pense aussi à des utilisateurs qui partagent le net en famille, T'es un gosse de 17 ou 18 ans ou 16 ans que tes parents récupèrent le net à partir de 22 heures, par exemple. C'est assez fréquent quand même, mine de rien. T'as plus ta box, voilà, t'as plus le câble. Et tu fais quoi donc? Si t'es emmerdé sur ta distro, si tu veux chercher de l'aide, tu peux plus rien faire, t'attends le lendemain. Et ça, je trouve pas ça normal. Je trouve que sur toutes les distributions qui existent, les manpages, d'accord, c'est bien les pages de manuel, mais elles sont pas toutes en français, elles sont pas toutes traduites. Et elles sont pas toutes vraiment user-friendly, franchement. Moi, j'aime lire les pages de manuel, mais je suis un peu maniaque, je suis un peu taré. Voilà, quoi. Je suis un amoureux des wikis, mais je sais que je suis un des rares. Donc, je préfère présenter ça de façon agréable. C'est la seule façon, de toute façon. On voit bien, l'image est présente partout, le design est présent partout. Si tu veux faire découvrir quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il ait envie de le regarder. S'il n'a pas envie de le regarder, il n'a pas envie de le découvrir. On est dans cette position-là en tant que... Enfin, dès que tu veux partager quelque chose, voilà quoi. T'attires pas les mouches avec du vinaigre, c'est con, mais c'est vrai.
Oui, tout à fait. Voilà. Tolrek, tu voulais ajouter quelque chose?
Non. pas là. Si j'avais une question, mais pas nécessairement maintenant, c'était par rapport au fait qu'il est seul à faire la maintenance, et donc, puisque tu es seul, est-ce que tu espères avoir une communauté autour de toi, ou au contraire, c'est un projet tout à fait personnel, et donc... c'est pas dans l'optique.
Non, j'ai pas du tout dans l'optique d'avoir plein de gens qui m'aident. En revanche, j'ai des contributeurs. Par exemple, il y a Aphélion. Aphélion qui, lui, s'est occupé de la session Awesome, qui est un navigateur en tiling, un gestionnaire, pardon, en tiling, codé en LUA. Et moi, le LUA, j'y capte rien. Vraiment que dalle, quoi. À part pour faire des jolis ronds en conquis, ça, j'y arrive bien, en reprenant le script des autres, en les modifiant. Mais sinon, j'y capte rien. Donc, lui, Aphélion, il s'occupe de tout ça. Il a configuré intégralement. Merci encore à lui. Si vous voulez aller voir, c'est Aphélion sur GitHub. Il a un compte. C'est un super mec. Bref. En plus, c'est un voisin. C'est cool. Un peu comme Bubule, hein, et toi?
Voilà, ouais. Bubule, voilà. C'est un voisin.
Non, lui, fais pas de bisous à la caméra, s'il te plaît, je le vois.
Ça coupe l'appétit, ça. Hein.
Non, je mangeais pas, c'est pas grave.
Ça va, alors.
Mais bon. Donc, ouais, moi, ce qui me plaît, c'est que si j'ai ouvert une section module sur mon site. Mm-hmm. Donc, je propose aux utilisateurs, s'ils veulent, s'ils veulent ajouter une session, par exemple, allez-y, les gars, pas de problème. Pondez-moi un script qui va ajouter la session, ajouter une aide et ajouter une configuration. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez contribuer, c'est avec plaisir, mais dans l'esprit du live art, c'est-à-dire que vous faites les trois quarts du chemin, à l'utilisateur de faire le quart qui reste, parce qu'il faut quand même qu'il bosse un peu, voilà, qu'il lise un peu du manuel, du wiki, qu'il apprenne un peu, parce que ça fait du bien au cerveau, faut pas rester comme des plantons devant la télé, mais, euh, Mais le but du jeu, voilà, si vous voulez contribuer, faites les trois quarts du boulot. C'est-à-dire, dites-moi par exemple, moi j'ai envie de faire découvrir Xmonad. Alors pour installer Xmonad, bah, il faut installer ça, il faut installer ça, il faut configurer comme ça, etc. Vous mettez ça dans une jolie archive, vous me l'envoyez par mail. Mon mail, c'est arpinux@member.fsf.org. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me mailer. Et vous m'envoyez ça dans une jolie archive. Et avec plaisir, je l'intégrerai au prochain LiveArp et je le proposerai au téléchargement sur mon site. Voilà, les contributions sur LiveArp, c'est comme ça.
Au niveau des versions... Enfin, je parle des versions, mais...
Excusez-moi si je suis un peu tyran avec ma distro, mais c'est vrai qu'au niveau des... Au niveau des contributions, voilà quoi. Si quelqu'un vient me voir en me disant « j'aimerais bien telle couleur ou telle autre couleur », je dis « bah écoute, vas-y, change le thème. Je lui montre comment changer le thème. » En revanche, je ne changerai pas le mien.
Bah oui, mais
c'est avec plaisir que je vais lui apprendre ou je vais lui montrer comment on fait, quoi. Et d'ailleurs, la plupart des changements possibles dans LiveArp sont expliqués dans la doc.
Mais oui, moi je trouve ça tout à fait normal et sain.
Voilà. Mais avec plaisir, j'accepte les contributions. Je ne suis pas fermé du tout. Hein. Allez-y, envoyez, c'est parti, il n'y a pas de problème.
Et finalement, qu'est-ce que... T'as déjà en tête des évolutions futures pour ta distribution? Il y a des trucs que tu veux accomplir avec ou ici tu considères qu'elle est plus ou moins mature, qu'on va suivre les évolutions d'Ebian?
Ah non, elle est pas mature du tout. Là,
donc où est-ce que tu veux encore creuser, améliorer
En fait, j'ai deux choses qui me bloquent. La première chose, c'est le format CD de 700 mégas. Qui est encore un format utilisé par beaucoup d'ordinateurs dans beaucoup d'endroits. Donc nous, on a tous l'habitude d'avoir une clé USB, on s'en fout de la taille de l'ISO, même si on a un live de 2 gigas, c'est pas grave. Sauf que pour pas mal d'utilisateurs, un live de 2 gigas, c'est très chiant, parce que ça veut dire cramer un DVD, et on n'a pas tous les moyens d'avoir un bloc de 50 DVD dans un coin. Donc voilà, ça me bloque, la taille.
Et pour le moment, tu es à combien?
Ah ben là, je suis à moins de 700. J'essaye de toujours être à moins de 700, en fait. Mais j'aimerais distribuer un LiveArp beaucoup plus complet, donc forcément beaucoup plus lourd, et c'est ça qui me gêne quelque part, mais d'un autre côté, j'ai très envie de le faire, avec une vingtaine ou une trentaine de Window Managers différents, avec beaucoup plus d'applications installées, pour que quelqu'un vraiment isolé, vraiment tout seul dans son coin, avec pas de JIC autour, pas de communauté, une liaison Internet de merde, puisse télécharger ça et découvrir Linux avec des sessions préconfigurées. Parce que c'est vrai que Debian fait ça. Debian, tu peux télécharger tous les DVD, tu as tous les paquets, etc. Mais il n'y a aucune préconfiguration de session. Donc tu dois te taper toutes les pages de manuel. Si tu es français en plus, Macache, hein, la moitié des manuels, ils sont en anglais. Donc voilà, ça demande... Je trouve que l'accessibilité de tous les outils Debian, en fait, n'est pas fabuleuse. Et je voudrais vraiment offrir un DVD qui permettrait l'accessibilité à tous ces outils, quoi. Voilà, c'est ça mon prochain projet. Mais ce qui me bloque, c'est la taille. Ce qui me bloque, c'est ces fameux 700 mégas qui vont rapidement me bloquer quand même au niveau des applications.
Et au niveau du support, je pense que tu as déjà essayé d'adapter aussi LiveArp sur de l'ARM.
Oui, j'ai fait un LiveArp pour le Raspberry, ouais, parce que j'ai un Raspberry, j'ai eu la chance de me faire offrir un Raspberry. Merci, merci.
Mais de rien, ouais, de rien.
Non, mais j'ai des dons, des fois. J'ai eu des dons. Si je peux faire une toute petite parenthèse là-dessus. Comme
je
ça.
T'en prie.
Une petite annonce.
J'ai eu un énorme cadeau, en fait. Un jour, j'ai reçu un colis avec des DVD de LiveArp 3.9. Un mec qui s'appelle Tiberias, qui est un contributeur LiveArp. Enfin, un utilisateur, mais qui travaille sur CrunchBang aussi. Et il m'a offert des DVD. Voilà, j'ai reçu un colis avec plein de DVD, et donc j'ai pu offrir, à mon tour, aux utilisateurs, leur offrir le coffret, quoi. Et donc ça m'a fait vraiment très très plaisir. Donc j'ai pas de bouton donate sur mon site, parce que je fais pas ça pour de l'argent, mais j'ai reçu vraiment des contributions surprenantes et très agréables. Donc ce coffret de DVD et un Raspberry aussi.
Ah, c'est aussi un contributeur ou un...
Ouais.
Ah ben ça, c'est vachement cool.
C'est Aphelion qui me l'a offert, et donc voilà, quoi, c'est...
Ça change de notre Satoshi. Je veux dire que je suis très content d'avoir reçu un Satoshi, mais...
Non, mais c'est vrai que ça m'a fait très très plaisir aussi, je t'avoue, franchement, j'étais très surpris. Et mais donc, ouais, donc j'ai fait un live art pour le Raspberry, je me suis amusé avec, parce que je voulais proposer un système uniquement en console pour le Raspberry, pour ceux qui voulaient installer un serveur, parce que c'est prédestiné, quoi, hein, le Raspberry, c'est fait pour ça.
Ouais, ouais.
Voilà. Et donc j'en ai fait un, enfin j'ai fait deux versions, et puis je me suis aperçu que je faisais pas aussi bien que les autres. Ma version était pas fabuleuse. Les autres font beaucoup mieux que moi. On a une communauté plus fournie, vu qu'il y a une communauté, alors que moi non, déjà. Et donc j'ai arrêté le projet. Donc l'image est toujours disponible, hein, pour ceux qui veulent s'amuser avec, qui veulent tester sur leur Raspberry, l'image est toujours disponible sur mon site, il n'y a pas de problème. En revanche, le projet est mort, quoi. Moi, j'ai arrêté. Franchement, si vous avez un Raspberry maintenant, si vous voulez vraiment vous amuser avec, téléchargez une Raspbian, téléchargez une PyBang. C'est la version Raspberry de la CrunchBang. Il y a une version Arch Linux aussi qui est sortie. Enfin, il y a plein de versions très très efficaces. XBMC aussi qui a sorti une version très bien. OpenELEC. Enfin, bref.
Oui, oui. D'après ce que j'ai entendu, OpenELEC est même meilleur que la version XBMC de sur le Raspberry, pour faire du XBMC. Ouais. On s'est parlé une fois la semaine passée.
Ouais, c'était très sympa.
Très, très sympa, pour un peu préparer l'interview. Et alors, j'ai appris quelques trucs. Enfin, bon, voilà, je me suis dit que c'était quand même important d'en parler. Je t'ai demandé si tu étais présent sur DistroWatch. Et là, toute la réponse était un peu intéressante. Donc, voilà, je te laisse développer. Est-ce que tu es présent sur DistroWatch? Et sinon, pourquoi?
Voilà. Alors voilà, cette question m'a été posée une fois sur IRC. J'ai dit que non, parce que je ne savais même pas comment ça marchait. Et un utilisateur, lui, a fait une demande sur DistroWatch, c'est-à-dire que tu cliques soumettre une distribution, voilà.
Donc quelqu'un a demandé pour toi, pour mettre l'IVARP sur DistroWatch,
voilà.
Mais c'était pas toi.
C'était pas moi. Donc j'ai été annoncé dans les news comme quoi j'étais dans la liste d'attente, voilà. Donc comme j'ai vu ça, j'ai dit bon je vais quand même le faire officiellement, faut pas déconner, voilà. C'est super sympa de la part du mec, mais il faut quand même que je le fasse, quoi. Donc je suis allé sur DistroWatch, je clique sur soumettre, ils me font remplir le petit questionnaire qui va bien, comment elle va ta distro, d'où qu'elle vient, à quoi elle sert. Et ils me disent bon voilà, vous êtes sur la liste d'attente. Même réponse que pour l'autre. Très bien, je vais dans la liste d'attente, je regarde et je vois qu'il y a des distributions qui sont là depuis 2-3 ans quand même. C'est quand même des
il faut payer, en fait.
Eh bien, en fait, il y a, oui, un petit bouton qui vous dit... Eh oui, il y a un petit bouton qui vous dit accélérer, améliorer votre...
Monter dans la liste d'attente.
Visibilité.
Voilà, améliorer votre visibilité. Merci pour le terme. Donc, tu cliques dessus et tu t'aperçois que pour être instantanément... Alors, tu n'es pas dans la liste des distributions les plus populaires avec le nombre de téléchargements. Attention, on ne parle pas de ça. Hein. On parle des news DistroWatch, des distributions qui sont mises en avant, qui sont mises au premier plan. Et bien, celle-là, en fait, c'est juste quelqu'un qui a fait un gentil don à DistroWatch. Donc, c'est vrai que le fait de faire un don à DistroWatch, qui est un site qui permet un classement, de se tenir à jour des distributions Linux, à la base, c'est une bonne idée, ce site. Mais c'est vrai que le fait de payer pour apparaître au premier plan, je me suis dit que j'en avais strictement rien à foutre. Donc voilà, voilà pourquoi je ne suis pas sur DistroWatch. Voilà, mais enfin, c'est vrai qu'il faut le savoir, oui. Payant, on va plus vite sur DistroWatch. C'est libre, mais pas complètement.
Voilà.
C'est libre avec des sous, quoi.
Voilà, c'est libre avec des sous.
Ça perd un peu l'intérêt du classement.
C'est un classement. Non, mais en plus, c'est complètement faussé parce que il y a d'autres sources de téléchargement de distribution. Par exemple, Linux Tracker, qui est un serveur de torrent qui répertorie toutes les distributions Linux. Enfin, la plupart des distributions Linux. Et là-dessus, c'est pas vraiment le même classement. Ensuite, il y a Softpedia, qui est une plateforme de téléchargement multi-plateforme, justement, Windows, Mac, Linux, etc. Ou même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez proposer quelque chose. C'est-à-dire qu'il suffit de dire, voilà, moi je propose tel truc, tel paquet, telle distribution. Voilà, là aussi il y a des téléchargements. Par exemple, je me suis aperçu que sur Softpedia, j'avais été téléchargé plus de 1600 fois en allant voir par hasard. Donc voilà, et ça sera jamais récupéré, référencé dans DistroWatch. Il y a un autre support aussi de connaissances, c'est GNU Linux Timeline, qui est, euh, qui est un espèce de graphique qui répertorie l'intégralité des trucs. Mais bon, c'est plus, enfin, ça n'a pas été maintenu depuis octobre 2012.
Ah,
donc,
oui,
du
oui.
coup, la JARP n'est pas dedans, voilà. Enfin, bref, mais c'est vrai que de la même façon que je n'avais pas de Google Plus avant ce soir.
Désolé.
Je t'en prie, c'est pas grave. Mais c'est rigolo parce que je me suis inscrit à Google Plus et instantanément j'ai eu je sais pas combien de demandes de je sais pas trop d'inclusion dans des cercles par plein de gens, c'était rigolo.
Ah mais c'est un virus hein, faut faire attention.
Non non mais je vais répondre cordialement que ceci n'était qu'un test, merci beaucoup pour vos invitations. Donc ne soyez pas ni vexés ni fâchés hein, c'est, voilà. C'était vraiment juste pour pouvoir communiquer ensemble et pouvoir voir l'environnement lugubre, excuse-moi, de Tolrec.
Oui, c'est vrai que Tolrec, il est un peu dans
le noir. On le dirait enfermé dans un placard, je suis désolé de le dire.
On dirait qu'il est...
À l'image...
Et encore, j'ai rajouté une lampe depuis.
Non mais sérieux, Bubu, les capitaines, vous êtes dans un environnement, c'est super lumineux, il y a de la couleur et tout, il y a des photos, des dessins, c'est joli, c'est lumineux. Et sur l'image d'à côté, tu vois ce pauvre Tolrec.
Seul.
On ne voit que ses lunettes et ses dents quand il sourit dans l'image sombre.
Blair Witch Project.
Oui, c'est vrai, c'est un peu une image à la Blair Witch Project. Oui, en plus, on voit rien, on voit pas du tout ce qu'il y a derrière toi.
C'est une lampe de poche en dessous de son menton, c'est tout.
C'est très, oui, c'est très très bizarre quand même. Enfin bref.
Il fait peur ce mec.
Enfin bon, c'est Google, ça marche. Je troll un peu sur Google+, mais n'empêche que ça fonctionne, mine de rien. Hein, voilà, ça nous permet de communiquer, c'est un outil qui fonctionne bien. Donc même s'il nous fichez-moi. Dans notre utilisation, là, le fait d'être fiché par Google, ça nous gêne pas du tout, puisque le but du podcast, c'est d'être écouté, et moi, le but du LiveArp, c'est d'être testé.
Ben voilà.
Donc, allez-y, fichez-moi, référencez-moi, mettez mon lien partout, faites-vous plaisir.
D'ailleurs, pour revenir un peu sur les origines de LiveArp, j'étais pas demandé, mais quand est sortie la première version
En 2011. Ouais.
Et alors, dans mes petites notes, j'avais marqué qu'il fallait parler de DistroWatch, et je me demandais aussi, est-ce que tu as un référencement sur Wikipédia?
Alors c'est vrai que oui, l'aventure Wikipédia, c'était rigolo aussi. Quelqu'un m'a demandé aussi si je voulais écrire sur Wikipédia un article pour LiveArp. J'ai donc essayé à trois reprises, mes pages ont été effacées. À chaque fois avec le même commentaire, LiveArp n'est pas assez connu pour avoir un article dans wikipedia.fr. Alors, j'ai demandé quel était le référencement nécessaire. Le référencement nécessaire, c'est DistroWatch. Donc,
ah oui.
eux, ils se basent sur DistroWatch et sur la GNU Linux Timeline, qui donc n'est plus à jour depuis octobre 2012, pour pouvoir avoir un article. Donc, si tu veux,
Oui, on est parfois un petit peu déçus hein, quand on.
Mais ça me gêne pas du tout. C'est encore une fois, DistroWatch et Wikipédia, ce sont des choses communautaires. Voilà. C'est donc à chaque communauté a son identité et a des sous-communautés, etc. Bon, ben voilà. Alors moi, ça ne me dérange pas que ceux qui vouent une foi merveilleuse en DistroWatch ne testent pas LiveArp. Tu vois, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Ceux qui sont sur Facebook, s'ils ne me connaissent pas, ça ne me gêne pas. Tu vois, ceux qui passent une journée entière sur Facebook, je sais très bien qu'ils ne pourront pas être curieux de passer une journée entière devant un terminal sur LiveArp. C'est pas possible. Donc voilà, c'est tous ces vecteurs d'informations-là sur lesquels je n'apparais pas, et d'ailleurs tu n'apparaîtras pas non plus, je suis désolé pour toi. Quoi que tu es sur iTunes maintenant avec les 5 étoiles.
Mais voilà,
ces vecteurs d'information là, si on n'y apparaît pas, je pense pas que ça nous gêne vraiment quoi.
Alors ça, j'ai en fait le truc iTunes, tu dis ça un peu en boutade, mais ça a été une vraie question. Je savais pas trop s'il fallait mettre le podcast sur iTunes. Et j'ai vraiment beaucoup hésité. Et puis je suis allé faire un tour sur Framablog. En fait, on s'était déjà échangé quelques mails avec Antistress à l'époque, qui lui m'avait dit que il était assez proche de la communauté Framablog et d'où d'ailleurs le slogan la route est longue mais la voie est libre est tiré, puisque ça vient d'eux ça.
J'adore leur logo.
Oui. Ah oui aussi oui.
Ah le tux qui vole frénétiquement là, il m'éclate comme à chaque fois que je le vois, je m'éclate.
Et
ah, ouais.
Et en réalité, eux, ils disent que toutes les promotions sont valables. Voilà. Et donc, s'il faut passer par Apple pour faire la promotion du livre, alors il faut passer par Apple pour faire la promotion du livre.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment. J'essaye de me battre pour les logiciels libres et pour les formats libres. Parce que je trouve ça mieux. Mais je vais pas cracher sur le reste. Je suis obligé d'admettre que certains formats propriétaires, par exemple, offrent des taux de compression plus puissants, ce qui permet de gagner de la place. Donc, pour quelqu'un qui a un ordinateur avec un disque de 40 gigas, il va préférer avoir tous ses morceaux en MP4 plutôt qu'en MKV. Je comprends. Non, mais donc il arrive un moment où l'éthique et tout, ça se fait au fur et à mesure. Par exemple, j'ai mis à disposition, moi, sur mon serveur, l'intégralité de Paroles de Tux, oui. Et je n'ai pris que les formats OGG.
Oui. Alors ça, voilà. J'ai vu. Bon, un grand merci pour nous servir de relais.
Ah non, mais
avec
plaisir, vraiment. Mais c'est fait pour ça. Quand on a de la place, autant s'en servir pour des projets intéressants, quoi. Mais j'ai un blog là qui ça a rien à voir avec LiveArt, mais comme c'est moi qui fais, j'en profite une seconde puisqu'on parle des formats libres. J'ai un blog qui s'appelle info.arpinux.org, très simple, et c'est juste un blog pour réunir le maximum de vidéos et de reportages en format libre. C'est-à-dire que j'essaye de récupérer des vidéos d'information, des vidéos de culture générale, etc., qui sont présentes sur le net, mais jamais en format libre. Par exemple, la conférence de Richard Stallman à Niort, la dernière, n'existe pas en format libre sur le net. Elle n'existe pas sauf chez moi. Bon, j'ai réussi, après 2 mois de négociations, à ce que la FSF Europe la mette sur son site. Donc, elle est disponible sur le site FSF Europe. Mais pendant 2 mois, la conférence de Richard Stallman, c'est quand même la lue, n'était disponible qu'en format propriétaire. Alors, voilà, c'est ce genre de choses qui m'agacent. Donc, je comprends très bien que toi, que tu dispenses Parole de Tux en format propriétaire, parce que le but du jeu, c'est d'être écouté par le plus de personnes. Mais comprends aussi ma démarche de prendre tout ce qui est en format propriétaire et de le remettre en format libre pour que ça puisse être retéléchargé librement, quoi.
Oui, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que je...
Il faut les deux. Comme il n'y en a pas assez qui partagent du libre, moi, je partage que du libre. Voilà.
Voilà, mais oui, mais c'est très bien. Mais il y a eu la question iTunes, pas iTunes, etc. Puis aussi, j'ai vu que...
iTunes, t'as eu raison, hein, parce que ça touche et Windows et Mac. Comme les gens utilisent iTunes sur Windows majoritairement, ça permet de toucher vraiment les deux communautés. C'est un très bon choix. Hein.
Oui. Et puis j'ai vu que, bon, l'écho des GNU, il était dessus aussi. Alors, suis tout de suite moins posé de questions. Et puis alors, pour le MP3 et format OGG... Forcément, bon, déjà iTunes, ça prend que le MP3, donc là la question était déjà réglée. Alors c'était ça le problème. Moi, j'ai un baladeur que j'ai acheté il y a 6 ou 7 ans
et il n'avait pas de log.
Voilà, il prend que le MP3 et donc bon, je pouvais pas commencer à diffuser seulement dans un seul format.
Je t'avoue franchement que ça fait partie de ma politique et de mon optique. C'est ce que je dis à chaque fois quand les gens me parlent, ils me disent mais t'es un extrémiste parce que tu veux tout faire en libre. Je dis, non, mais Le truc, c'est que ça doit se faire dans la durée. On fait le choix, on prend la décision de faire les choses librement, de travailler en logiciel libre. Ça ne veut pas dire qu'instantanément, on va jeter son ordinateur parce qu'il y a marqué Sony dessus, qu'on va d'un seul coup foutre en l'air toute sa bibliothèque iTunes. Ça veut dire que lors de notre prochain achat, par exemple, on va choisir un ordinateur qui est mieux supporté par les logiciels libres. On va choisir, par exemple, en choisissant un hébergeur libre, etc. Ça se fait dans la continuité, mais forcément, à l'heure actuelle, on est obligé d'avoir du propriétaire à la maison. J'ai pas Flash, par exemple. Donc, quand quelqu'un me passe une vidéo, je suis obligé de la télécharger. Mais si j'ai pas le net, je fais comment ? Donc voilà, c'est ça le problème. Si j'ai une mauvaise liaison Internet, je suis emmerdé. Donc, on est obligé d'avoir des formats propriétaires pour l'instant. Œuvrons tous pour que le libre... supplante tout ça, mais ça va prendre du temps.
Mais on gagne du terrain, j'en suis convaincu.
Bien sûr qu'on gagne du
tout
terrain.
Tout ça va dans la bonne direction. Bon, au niveau... pour en revenir à...
au sujet.
Oui ou non. En fait, j'avais encore une ou deux questions.
Vas-y.
Je me demandais, en fait, donc... toi, tu as créé ta distribution avec une certaine philosophie. Est-ce que toi-même, tu as été inspiré par une autre distribution ou est-ce que tu te retrouves au niveau de tes repères dans une autre distribution? Tu as cité certaines distributions minimalistes. Est-ce qu'il te semble qu'elles vont dans la même direction que toi? Et donc, du coup, est-ce que tu as envie de conseiller à des gens qui ont aimé ta distro une autre distro?
Bon, bah, je suis désolé, je vais être ni modeste ni gentil. Mais sur mon secteur d'activité, je dirais, je suis le seul.
Mais tu peux dire, je suis le meilleur.
Non, mais il n'y a pas de meilleur. Non, c'est horrible. Quelle horreur. Non. Mais en revanche, non, je suis le seul. J'ai cherché. C'est-à-dire que avant de faire ma distro, j'ai cherché si ça existait. Je suis pas, tu vois, je vais pas faire un truc qui existe déjà. J'ai essayé de, voilà. J'ai pas trouvé.
Et en fait, c'est à défaut de trouver ce que tu cherchais que tu as.
Véritablement.
Ah oui.
Véritablement, parce que ça, non, ça ne, c'est pas. Si tu veux, j'étais sur Conchbang, que j'adore. C'est vraiment une distribution que j'adore, que je conseille à toute personne qui veut essayer Debian, qui a une petite configuration, qui veut pas trop se prendre la tête. Vraiment, c'est une excellente distribution. Le seul souci, c'est que on en parlait tout à l'heure, il y a un dépôt particulier, il y a un dépôt spécial. Donc Core Nominal, qui est le développeur principal de chez Conchbang. Maintient un dépôt particulier, donc du coup soi-même on peut pas décider, c'est pas une communauté qui décide pour le coup, c'est un seul mec. Alors si on est d'accord avec lui, tant mieux, si on n'est pas d'accord avec lui, tant pis. Et c'est ça qui me gêne personnellement, c'est-à-dire que quand on a une Debian, c'est pas on n'est pas d'accord avec un mec, c'est on n'est pas d'accord avec une communauté. C'est pour ça qu'on n'installe pas Debian, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec la communauté Debian. Et c'est une autre façon de faire, une autre façon de voir.
C'est un peu plus démocratique ?
Démocratique, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que je n'impose absolument rien à l'utilisateur. C'est... Bon, déjà, parce que je ne peux pas imposer des paquets, vu que je ne sais pas les coder, mais je pourrais apprendre. Mais c'est aussi par choix. Je trouve que c'est vraiment la personne... L'ordi, c'est... Enfin, quand tu l'achètes, il est à toi, bordel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à personne d'autre de décider ce que tu vas coller dedans. Donc, que toi, tu mettes des trucs dedans pour faciliter l'utilisation. D'accord. Mais pas trop. Voilà. Je trouve que plus tu en rajoutes, plus tu en imposes et plus tu enlèves du choix. Et Linux, normalement, GNU Linux, c'est le choix.
Ouais, ça, c'est pas chez tout le monde, voilà. Mais disons que l'idée de départ, c'est ça. Ouais.
Attends. Après, il y a des utilisateurs qui veulent avoir un ordi qui fonctionne simplement, de façon intuitive, ils ont absolument pas le temps, ils n'ont pas envie de se prendre la tronche avec ça. Donc, effectivement, ils achètent un ordinateur à 700 ou 800 euros ou 900 euros, ils mettent Ubuntu dedans et ça marche. J'ai rien à dire, ça fonctionne. Et c'est intuitif, et ça ressemble à leur smartphone au niveau de l'interface, donc ils sont pas perdus. Ça ressemble à l'ordinateur de leur copain. Donc c'est qui est sous Windows ou qui est sous Mac, donc ils sont pas dépaysés, ils utilisent du logiciel libre, donc tout va bien. Je vais pas gueuler dessus, mais le problème c'est que ça c'est 10% du parc mondial informatique. Je trouve ça dommage que la communauté du libre se réduise à 10% du parc mondial informatique. Ouais. Faut arrêter de croire que Linux c'est Ubuntu ou que Linux c'est Fedora ou que Linux c'est les proprios de chez Red Hat ou de chez OpenSUSE ou chez, voilà. Linux, c'est pas ça. GNU Linux, c'est des tarés dans leur garage, quoi. ou des fous furieux dans leur cuisine. C'est ça, GNU Linux. Mais ouais. Mais non, mais voilà. C'est ça qui fait vivre Linux.
C'est bien de le rappeler.
Mais ouais, non, mais sans déconner. Shuttleworth, il est sympathique. Hein. Je l'aime beaucoup. Hein. Il a œuvré pour Linux, etc. et pour Ubuntu, et c'est très bien. Mais on sent bien que c'est pas gratos quand même. Il arrive un moment où il va falloir du retour.
Ah oui,
sur investissement.
Il a dû payer son voyage dans l'espace, 500 000 dollars, si tu as écouté l'épisode précédent.
Oui.
Donc
oui,
cet argent vient en effet de quelque part.
Et disons que c'est pas le problème, c'est la mentalité, voilà, l'optique de Ubuntu, c'est d'avancer vers une distribution qui veut être 100% libre, mais aussi rentable, quoi. Elle doit être rentable.
C'est un bulldozer.
Oui, tout à fait.
Je vais te voir s'il a une technique. Il a une technique marketing pour imposer le libre au monde. C'est tout. Donc, il utilise exactement les mêmes armes que ses concurrents. Il est sur le même terrain. Il fonctionne de la même façon. Il est éduqué comme eux. Il fonctionne comme eux. Il a fait sa fortune comme eux. Donc voilà, c'est encore une fois, je le critique pas, mais c'est quelqu'un qui... Enfin, je le critique pas. Si, un peu quand même.
Ouais, un peu quand même. Hein.
C'est quelqu'un qui sort d'un système capitaliste, marchand, pur, dur, d'accord, qui fait une fortune dessus et qui fait une bonne œuvre avec. Très bien. Pendant des années, il a distribué des CD, des DVD d'Ubuntu à travers le monde. Je sais, j'en ai eu un. J'ai eu mon CD Orange. J'étais très fier. Je l'ai montré à mes copains. Je l'ai installé. Je faisais des installs chez mes potes. Je montrais comme ça marchait bien et tout. Donc voilà, attention. Ce qu'il a fait pour le livre, c'est extraordinaire. En revanche, ce qu'il veut en faire et ce qu'il veut en récupérer, ça me gêne. Dans le livre, on donne, on récupère rien. On n'a pas le droit de redemander. On demande, dans le livre, on demande quelque chose, on attend qu'on nous aide. Si on ne nous aide pas, tant pis, on se démerde. Généralement, on nous aide. Une fois qu'on nous a aidés, on a réussi notre projet, on est content, et bien ce projet-là, on le donne. De la même façon.
Je pense que l'ami Marc, il s'est lancé dans une aventure, donc créer sa distribution, orientation finalement professionnelle et des particuliers. Et il s'est dit qu'il allait pouvoir supporter un business model complètement et entièrement sur le support de sa distribution. Et je pense qu'avec les années, il a un peu déchanté. Et là, il est en train de pactiser un peu avec le diable, avec des intégrations avec Amazon
Attention, tu précises bien, notre ami Marc, c'est Marc Shuttleworth, hein, c'est pas Marc.
Oui, non, c'est Shuttleworth. Pourquoi tu pensais auquel ?
Non, à tous les autres marques, les pauvres.
Ah oui, non.
Non, mais peut-être tu connais quelqu'un qui s'appelle Marc et sache qu'il n'est peut-être pas content d'être comparé à cette espèce de...
Je connais un Marc, mais c'est pas lui qui a fait Ubuntu.
Zuckerberg.
je rappelle que c'est pas Marc Shuttleworth qui a fait Ubuntu. Hein. Il a mis les sous.
Oui, il a mis les sous. Il a créé la société Canonical.
Non, mais rendons hommage aux développeurs d'Ubuntu, mine de rien, qui ont redonné au libre. Certains ont gardé pour eux, mais d'autres ont redonné au libre, donc merci quand même.
Oui, moi je crache un peu sur Ubuntu, mais pas complètement, parce que c'est souvent grâce à cette distribution-là que les gens arrivent.
Un peu, mais pas complètement, tu postillonnes.
Oui, voilà, je postillonne un peu sur Ubuntu, juste parce que voilà, c'est quand même une belle porte d'entrée, comme tu l'as bien dit, tu l'installes, et puis en général ça fonctionne, ça supporte tout le matériel.
Non, mais ça a été ma porte d'entrée. Hein.
Voilà.
Oui.
Ça a été la mienne aussi. Et c'est toujours celle de Bubule, en fait. Bubule, il est toujours dessus.
Ah, je l'attendais. Je vous écoutais sans rien dire et j'attendais cette vanne. Ouais, c'est vrai, moi, moi je suis encore jeune.
Aussi,
hein. Sur Linux.
Oui, toi aussi, t'as une Ubuntu Studio, je crois.
Oui, c'est vrai.
Ouais, paf.
C'est vrai.
Non. Mais attends, l'Ubuntu Studio, j'avoue que moi, j'y connais que dalle en MIDI, musique, ce que vous faites, je vous vois avec vos gros micros et vos bidules devant, on dirait des spatules, là.
Mais, c'est un filtre, c'est anti-pop. Si on n'a pas ça, et quand on fait des P, ça fait un sale bruit.
Mais j'ai fait un peu d'animation au bar, enfin ce genre de truc, etc., mais j'avais pas ce genre de micro, mais on avait rien à foutre de la saturation, des pop, de la qualité, on envoyait juste du gros son. Ta main devant ta bouche, Tolrek. Et...
Je refuse.
Quoi, il a baillé.
Oui. Ah.
Bon, elle suit un peu Captain quand même. Elle est sérieux.
Non mais oui, mais je regarde pas la gueule de Tolrek ça. Après j'ai envie d'arrêter.
Pour une fois qu'il est pas là, on en profite.
Ouais, c'est ça quoi. Mais je ne sais même plus ce qu'on était en train de dire.
On parlait d'Ubuntu Studio et effectivement.
Oui, donc donc la raison pour laquelle je prends Ubuntu Studio, en fait, c'est. C'est parce qu'il fallait... Comment ?
Mais t'es obligé, quand t'as du matos un peu moderne et du matos de son, Debian, ça suit pas. Les nouveaux, il faut des nouveaux drivers, etc. Les seuls qui suivent, c'est Apple.
Il y a un truc qui était intéressant dans Ubuntu Studio, les anciennes versions, c'est qu'ils avaient... Ils avaient compilé un kernel en real time. Ceci dit, rien ne m'empêchait de recompiler un kernel real time sur une Debian. Mais disons qu'Ubuntu Studio...
C'est la grosse vanne, hein, d'ailleurs, en ce moment. Sur les chaînes IRC, Debian, c'est la grosse vanne. Si tu veux faire monter ton CPU à 110 degrés, vas-y, compile ton noyau en real time.
Ah oui, mais bon, enfin, ouais. Voilà, pour la distribution Ubuntu Studio, c'était un atout pour tout ce qui était traitement sonore. Parce qu'il y a quand tu fais un peu, quand tu travailles un petit peu là-dedans, le problème quand tu enregistres ton instrument, c'est de t'entendre en décalage par rapport à ce que tu es en train de faire, quoi. Ça, c'est vraiment l'enfer. Et donc voilà, cette distribution-là, elle offrait ça avant, parce que maintenant, on a ce qu'on appelle du low latency, et c'est pas vraiment du real time. Donc, ils ont laissé tomber cette fonctionnalité-là.
J'ai écouté le podcast où tu en parles. J'ai essayé de comprendre en lisant le résumé sur. J'ai toujours pas compris la différence entre real time et low latency. Je t'avoue franchement.
Et bon, qu'est-ce que tu pensais du Secure Boot?
Cette saloperie, pardon, excusez-moi.
Non, mais ça, c'est bref, c'est pas très très grave. Mais sinon, Ubuntu Studio vient aussi avec évidemment une série logicielle assez intéressante. Et c'est vrai que à partir du moment où tu pars d'une Ubuntu Studio, t'as déjà pas mal de logiciels qui vont fonctionner d'office sur ta distro. Et voilà,
pour moi, c'est le seul concurrent libre à la suite média de Mac, quoi.
Ah oui. Bah bon, maintenant il y en a d'autres, et il y en a même une qui existe et qui est approuvée par la FSF. Je pense qu'elle s'appelle Musix d'ailleurs. Je suis plus très sûr hein, maintenant, j'ai peur de dire des conneries. Mais il y a une distribution musicale entièrement libre, parce que de nouveau Ubuntu Studio, un petit peu le problème, c'est qu'ils arrivent avec tous leurs codecs déjà pour tout ce qui est vidéo. Parce que Ubuntu Studio, c'est pas que le son, hein, c'est l'image et la vidéo aussi. Et donc voilà, il y a des tas de formats propriétaires, c'est un peu...
Bah oui, mais travailler dans le milieu professionnel uniquement en libre, ça, c'est compliqué.
Mais c'est possible, il y en a qui y arrivent.
Attention, c'est possible, les outils libres existent, même de partage vidéo, les outils libres... Enfin, par exemple, il y a une alternative à YouTube, hein, par exemple, hein, enfin, pour soi-même, hein, il y a Media Goblin, qui est approuvé par la FSF, hein, qui est un serveur son, partage son et vidéo, qui fonctionne sur le même principe que YouTube. Voilà. Donc c'est vrai que j'appelle au mécène, hein, Monsieur Mark Shuttleworth. Oui. S'il a un gros serveur et qu'il veut mettre un Media Goblin dessus, il pourrait faire concurrence à YouTube de façon entièrement libre pour la planète.
Mais moi, tous les liens dont tu parles, ça m'intéresse. Hein, le Media Goblin là, je connaissais pas du tout.
C'est un serveur, une application de serveur partage audio son.
Audio-vidéo,
voilà.
Mais basé format libre, alors.
Complètement.
Donc, pas de flash.
Pas de flash, tout est en libre. Mais pareil, avec le même système. Hein, les utilisateurs, tu peux t'inscrire, t'as les RSS des mecs que t'aimes bien, etc., etc. Voilà, le même principe.
Eh bien, Andy. Ah ben, j'irai jeter un coup d'œil. J'espère que je ne vais pas oublier. Donc, à la limite...
C'est vrai qu'il est down.
Ah. On a perdu non, tu vois.
Il fait des blagues.
Il a éteint sa lampe.
Tolrek, il fait des blagues à l'image sur un podcast audio. Tolrek, arrête.
Tolrek,
personne ne le voit par nous.
Est-ce que tu vois ta gueule sur Google Plus?
En plus, il se voit en petit, lui.
Est-ce que tu vois comme on ne te voit pas? Mais c'est vrai qu'on dirait que t'es dans un placard. Hein, ouais, là, tu vois, on ne le voit plus du tout. Voilà. On me voit, on ne me voit plus. Bref, allez, on va clôturer ici cette interview parce que ça fait...
C'est pour ça que la dernière fois quand tu m'as parlé, tu m'as dit on fera ça en 20-30 minutes. Je t'avais dit écoute, on fera ça comme on veut et tu couperas après.
Ouais, mais ça, il faut pas le raconter parce que Tolrek va se foutre de ma gueule.
Oui. Vas-y. Crois l'avoir déjà dit, le format idéal d'un podcast selon le Captain Posix est de 3 quarts d'heure.
Bah écoute, alors, moi ça me fait beaucoup rire parce que, comme je t'ai dit, j'ai mis à disposition tous les... Oui, allez-y, allez chercher tous les épisodes de Paroles de Tuc sur mon serveur, faites-vous plaisir, c'est gratos, et c'est bon. Mais c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est quand j'ai commencé à les uploader, donc le premier, ça a été très vite, hein.
Oui.
D'accord. Et plus ça va, plus mon client FTP me disait « ça va mettre longtemps, mon gars ».
Non, mais c'est vrai, au début...
C'est vrai qu'après, on atteint quand même des épisodes de plus de 2 heures, hein, qui pour podcast audio... Non, je veux dire, il faut quand même que le mec il soit amateur, hein, pour rester 2 heures avec son casque en écoutant un podcast.
Non, mais il faut qu'il soit plus qu'amateur, il doit être amateur, patient, tolérant, gentil.
Les grévistes aussi ont le temps, hein, pour écouter les podcasts longs comme le tien, c'est vrai, c'est une bonne idée. Au niveau syndical, tu dois avoir beaucoup de clients, en fait.
Mais certainement, mais on attire les glandeurs, en fait.
Non, mais non, ne dis pas que les syndicalistes sont des glandeurs. Là, tu vas te couper de toute une frange de... Non, c'est pas bien, ça.
Non, vive les syndicats.
Non, pas vive les syndicats. Quelle horreur.
Il y a un juste milieu.
Vive les syndicalistes.
Là, t'es en train de te couper de tout le patronat.
Non, mais vive les patrons.
Et donc t'auras rien de plus comme bitcoins, hein.
Non, je pourrais, c'est vrai. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je continue à survivre sans Bitcoin. Donc voilà, en fait, je voulais juste clôturer avec les endroits où on peut te retrouver en fait sur Internet, tes différents liens.
C'est centralisé. En fait, je fais ça simple. Si tu vas sur arpinux.org, arpinux.org, il y a tout. En fait, ma page d'accueil, c'est une page de liens. Donc, sur ma page d'accueil, tu vas trouver tout ce que je fais.
Il y a aussi tes liens vers DeviantArt.
Ouais. Ouais, sur... oui, j'ai... Bah, en fait,
parce que tu es aussi un petit créateur artistique.
Bah, en fait, comme je suis venu à Linux, à GNU Linux, par le dessin, j'ai scanné l'intégralité de l'expo qui m'a fait venir à Linux, et je l'ai filé, et puis j'ai eu quelques retours, et donc du coup, bah, j'ai continué, et j'ai fait des fonds d'écran, des packs, enfin, il y a plein de... beaucoup de choses.
Mais tu pourras nous faire une bannière.
Alors voilà, j'avais proposé, mais je sais que ça a été déjà fait, non, d'après ce que j'ai compris, vous avez une bannière toute neuve, non?
Non, mais je la change tous les mois, il y a encore, attends, Mika, je pense, il m'en a fait...
C'est une bannière mobile, c'est fabuleux.
Ah ouais, je change à chaque épisode. Et j'en ai reçu 7 ou 8 de Mika, et j'en ai reçu une de...
D'accord.
De il va falloir qu'on fasse encore 8 ou 9 émissions de 3 heures.
Je pense qu'elle vient de Pascal C++, là, celle qui est actuellement...
des invités aussi bavards que moi, oui.
Mais oh. Non, mais absolument pas, mais tu n'es pas bavard, mais c'est nous qui te
faisons... On y arrive tout seul.
Oui.
Oui, j'ai remarqué.
C'est tout à fait vrai. Donc voilà, donc le concentré de tes informations, l'essence même d'Arpinux se trouve sur arpinux.org.
Oui, c'est pas compliqué.
C'est pas compliqué. Je te remercie 4 milliards de fois d'avoir été présent avec nous, de oui, nous avoir fait partager, plaisir partagé, d'avoir partagé avec nous finalement un petit peu la genèse d'une distribution. C'était, comme je l'ai dit au début de l'interview, finalement on en parle, et c'était quand même intéressant d'avoir...
Et je ne suis pas développeur, s'il vous plaît, mettez-vous-y. Sérieux, tous ceux qui sont sur Debian, essayez Live Build.
Mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour nous, on n'est pas podcasteurs, donc...
Non, mais par contre, on ferait bien une distribution Captain POSIX.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ça a l'air si simple comme tu nous l'as présenté.
Non, mais du coup je vais m'intéresser quand même à Live Build. C'est vrai que je vais quand même jeter un coup d'œil.
Bah, pour moi, c'est un outil magique quand même. C'est quand même absolument hallucinant de pouvoir de pouvoir construire sa propre distribution, et ils mettent ça à dispo gratos. C'est aussi ça que, alors par exemple, Ubuntu a un outil, on parlait d'Ubuntu, juste je termine là-dessus pour faire la comparaison, pour bien expliquer,
pour bien les tuer.
Non, mais pour bien faire comprendre, quoi. Ubuntu a un outil qui permet de fabriquer son propre remaster 6, son propre remaster d'Ubuntu, d'accord ?
Ouais.
Donc, vous partez d'une Ubuntu installée, vous lui dites je veux ça, avec tel outil, hop, il vous crée le truc, d'accord ? Sous licence Ubuntu, voilà, enfin sous licence, sous paquet Ubuntu, voilà, tout est officiel, tout est beau, tout est propre, donc pas de problème, on est d'accord ? Sauf que c'est une Ubuntu. non mais vous pouvez pas la distribuer, d'accord ?
Tu peux pas la renommer, en tout cas, donc...
C'est-à-dire que tu peux la renommer, mais c'est toujours c'est pas ta distribution. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux c'est vrai que c'est une toute petite nuance, et j'avoue qu'à cette heure-là, d'un seul coup, j'ai du mal à m'exprimer. Mais le développeur Debian et le développeur Ubuntu œuvrent pas pour les mêmes personnes, en fait. L'Ubuntero, celui qui utilise Ubuntu, utilise son ordinateur comme un outil pour sa vie sociale, machin, etc. Tu vois, il va aller sur le net. Mais c'est pas un codeur. C'est pas quelqu'un qui va chercher à comprendre pourquoi est-ce que il y a telle fenêtre qui s'ouvre à tel moment. Ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que ça fonctionne. L'utilisateur Debian, lui, ça va le gonfler, cette fenêtre qui s'ouvre. Parce que c'est pas ça qu'il a demandé. Parce que quand tu installes une Debian, t'as jamais cette fenêtre qui s'ouvre toute seule, parce que c'est pas fait pour ça. Donc, quand un utilisateur qui est fait pour une Ubuntu installe une Debian, il sera toujours déçu, parce qu'il trouvera pas ça ergonomique, parce qu'il trouvera pas ça agréable. Et de la même façon, un mec qui est fait pour Debian, quand il va installer une Ubuntu, ça va l'emmerder très très vite, parce qu'on va lui imposer des choses qu'il aime pas. Et c'est exactement la même nuance qu'il existe entre les deux outils pour le live. Je sais pas si vous me comprenez,
ouais,
si
ouais,
je me fais
ouais,
comprendre,
ouais.
mais voilà, c'est cette même nuance. C'est-à-dire que l'outil de création de live Ubuntu va te permettre de modifier certaines choses, mais pas tout. L'outil de création de live de Debian va te permettre de vraiment tout créer. C'est-à-dire que si tu lances l'outil sans aucun paramètre, ça te fait un truc nu. T'as rien. Voilà. Débrouille-toi.
Ouais,
ça te
ouais.
fait un truc de base. Voilà. Donc c'est tout. C'est soit tu pars de rien et tu construis toi-même, soit on te donne tout et tu te débrouilles avec, même si ça te plaît pas vraiment. C'est en gros ce que je pense de la différence entre les deux grandes maisons, Debian et Ubuntu, quoi. Et pour terminer, je suis désolé, mais là il faut que je le fasse parce que sinon je vais me faire tuer et je pourrais pas me regarder dans une glace demain. Je voudrais dire un énorme merci à Aphelion pour la session à Wissom, parce que c'est lui qui l'a configuré. À Tim Cowship, qui est le mec qui m'a fait la version 64, parce que moi, j'ai pas d'ordinateur qui peuvent le faire. À Pobtot, P-O-B-T-O-T-T, c'est le mec qui a créé les icônes qui ont fait le LiveArp. À Gantas, qui est un contributeur qui m'a fait des wallpapers et qui est là depuis le début avec moi. À Kankano, qui a fait des walls aussi, à Wourlouf, W-L-O-U-R-F, à Made in Kobaya, ça va pas durer longtemps, je vous promets, je vous vois faire la gueule.
Non, mais non, pas du tout, tu peux.
C'est uniquement Bubule.
À Simzer, à Edwin Hard, alors E-D-1-W-2-A-R-D, il est sur DeviantArt, mais tout ça, en fait, c'est sur ma page Credits. Donc je vais arrêter là parce que ça va vous emmerder, je suis désolé. Voilà, en fait, c'est tous les gens qui ont participé, enfin qui j'ai piqué des trucs en fait, ils ont pas participé, j'ai piqué des trucs. Voilà.
Non mais il faut
demander l'autorisation, mais c'est important parce qu'encore une fois, j'ai fait la distro tout seul en partant d'un outil, mais j'ai quand même piqué des trucs à des gens qui ont fait des choses magnifiques, des thèmes, des petits outils et des configs, et ces mecs-là, ils ont vraiment fait un super boulot, donc faut aller voir ce qu'ils font. Donc allez voir, en fait, quand vous allez sur LiveArp, il y a un petit onglet sur la gauche où il y a marqué Doc, et en fait là c'est là où il y a tout le Help Center, c'est-à-dire vous trouverez toute la doc sur tout ce qui fait le LiveArp, les applications, les sessions, comment ça marche, comment ça se configure, vous avez des aperçus de tout, donc vous pouvez la découvrir sans l'installer, sans la tester, vous avez des aperçus de tout, et il y a une petite case Credits avec ceux qui ont fait le boulot. Allez jeter un coup d'œil, allez voir ce qu'ils font, allez leur dire merci si vous avez apprécié, si vous avez aimé ce qu'ils ont fait. Voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est important aussi.
Mais oui, mais t'as tout à fait raison, mais t'étais tout à fait autorisé à le faire.
Voilà.
Hein,
c'est... Non, mais je vous remercie vraiment infiniment de m'avoir invité, mais je voulais les remercier eux aussi et tous les devs Debian.
Voilà. Mais il n'y a aucun problème, c'est juste... Ce sera juste coupé au montage.
Salaud, tu coupes pas, mais remercie-moi au montage. On file le lien au moins.
Non, mais je rigole, t'es fou. Je coupe.
T'as raison, coupe les parce que c'est chiant, mais file le lien, s'il te plaît.
Non, t'es fou, je coupe rien. Je ne coupe rien.
Jamais parce qu'il est trop fainéant pour couper. Donc
Voilà, Tolrek a bien compris. Ouais,
mais de toute façon.
J'aurais
plus de place pour parler d'autre chose.
Non, mais je rigole.
Faut couper.
Je ne coupe absolument rien. Voilà, mais ceci dit, là maintenant, 1h25, il faut clôturer, sinon... ou alors on relance un autre débat, mais là...
Non.
Aujourd'hui, il est tard, tout le monde est fatigué.
Ouais, tout le monde est fatigué, et ça, tu vas pouvoir le couper, ce sera cool. Et non, je voudrais juste remercier ma femme, quand même, qui supporte mon addiction à l'informatique avec grand plaisir et qui s'en amuse, juste comme ça.
Voilà. Eh bien, on la salue.
Elle s'en amuse ou elle se fout de ta gueule ? Attention, parfois la nuance est mince.
Non, je dois être honnête, il y a les deux.
Ah oui, d'accord, ok.
Non, soyons honnêtes.
Il me semblait bien.
Oui, elle s'amuse et elle se fout de ma gueule, les deux. Non, je dois être honnête.
Bon, mais c'est pour
mais
ça qu'on les aime.
Je te remercie quand même.
Ben voilà, donc nous, on te remercie, comme je disais.
Oui, merci.
Super content de t'avoir rencontré et puis de nous avoir communiqué ta passion pour les distributions, pour le monde du libre, etc. etc. Donc ouais. Voilà, j'espère que tu resteras aussi un fidèle à l'émission et que tu viendras nous mettre 5 étoiles sur iTunes.
Non, ça ne reste pas, mais rester fidèle, oui. Première partie, pas de problème, mais le reste, non. Mais voilà. Testez, allez-y les libristes, testez, continuez à découvrir plein de trucs et arrêtez de vous cantonner aux deux distros qu'on vous propose, allez chercher ailleurs. Pas que la mienne, hein. Allez chercher ailleurs, il y a plein de choses jolies à découvrir.
Voilà, c'était le bon mot de la fin. Ben voilà, en fait, on termine l'émission là-dessus et on se donne rendez-vous le mois prochain. À ciao.
Ciao.
Salut.